Bienvenue sur l'Effet Marketing, le podcast qui décrypte les stratégies de croissance des entreprises à impact. Je m'appelle Léa Guenifet et j'aide les entreprises à impact à maximiser la rentabilité de leur campagne Google Ads. Dans chaque épisode, on analyse une action ou un canal marketing pour développer votre entreprise. Vous y trouverez des conseils concrets, un retour d'expérience avec une vision terrain et l'impact de ces actions pour répliquer la même stratégie pour votre entreprise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à mon micro German Bruno, le fondateur de Crowdybox et Backline. German, c'est le meilleur allié des marques engagées qui veulent lancer leurs produits. Il a accompagné plus de 150 entreprises dans leur lancement, comme 900K, Inga, Puissante, Réjane, et il a récolté près de 10 millions de fonds au total. Et avec German, on se connaît depuis un moment parce qu'on bossait ensemble au même moment au Hub 612, un incubateur de start-up lyonnais, et ça fait maintenant 5 ans. Donc j'ai vraiment été témoin de l'ascension de German au fil des années, et il y a un secret aujourd'hui que je dois révéler au grand jour, c'est que derrière la majorité des campagnes de crowdfunding qui ont cartonné en France se trouve bien souvent, dans l'ombre, le travail de German et de son équipe. Et c'est pour ça que je voulais absolument le recevoir à mon micro, parce qu'il a une mine d'or à nous partager et sa méthode pour pouvoir réussir une campagne de crowdfunding en 2024. Je vous laisse avec mon invité du jour. Hello German!
Bonjour Léa.
Très contente de te recevoir enfin sur le podcast parce que ça fait un moment qu'on est en contact et j'avais trop hâte de te recevoir à mon micro.
Merci beaucoup pour cette invitation. J'avoue que ça fait un petit moment qu'on en discute et on a enfin bloqué nos agendas.
C'est ça, trop cool. Eh bien écoute, ce que je te propose, c'est de démarrer dans le vif du sujet, j'ai envie de dire, avec ma première question qui est un petit peu, je pense, une question que tout le monde se pose. Moi, j'ai l'impression que le milieu du crowdfunding, il a pas mal évolué ces dernières années et que, tu vois, là, si je décide de lancer une campagne de crowdfunding en 2024, ça va être beaucoup plus compliqué que si je le fais 3-4 ans en arrière. Et du coup, je serais super intéressée d'avoir, toi, ton analyse là-dessus parce que tu baignes dans ce milieu-là depuis un moment, que tu puisses nous partager un petit peu ton retour d'expérience et ce qui a changé aujourd'hui selon toi.
Avec grand plaisir. En fait, moi, je fais partie un peu des dinosaures de crowdfunding. Crowdybox, en fait, a été lancé... avant d'officialiser son lancement, c'était déjà pensé dans les années 2013-14. Donc, j'ai bien accompagné toutes les étapes de...
10 ans
déjà. Et on a accompagné l'évolution de ces marchés-là avec la courbe du hype, hein, disons, wow, ça va être génial, on va disrupter la banque. Après, on s'est un peu calmé, on s'est vraiment focalisé sur des campagnes plus travaillées. Et tu as raison, en 2024, c'est plus compliqué. Je ne sais pas si c'est les règles du jeu qui ont changé ou si c'est qu'on est dans un jeu inhérent du web, hein, c'est-à-dire que c'est pas la concurrence qui est plus rude, c'est que l'acquisition sortie de nulle part sur Instagram, c'est plus dur qu'il y a 5 ans. Nous, chez Crowdybox, on accompagne que des projets d'impact. Donc aujourd'hui, certes, on est moins anecdotique à dire qu'on fait du Made in France, on fait pas la différence juste en disant qu'on fait de la cosmétique solide, naturelle, bio. C'est pour une bonne raison, c'est-à-dire que ça voudrait dire que ces marchés-là, ils sont bien pris et qu'aujourd'hui, on peut trouver des alternatives qu'il y a, tu as raison, il y a 5 ans, il n'y en avait pas, en fait. Nous, on a bien suivi les tendances des tout premières marques des mondes responsables Made in France. On a bien lancé toutes ces marques des cosmétiques solides, etc. Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui nous contacte pour refaire une campagne juste au Dandine Made in France, et en fait, il faut mettre beaucoup plus d'efforts parce que bien évidemment, sur l'étagère, il y a déjà des marques qui font des belles choses. Donc je dirais c'est difficile, mais pour des raisons qui sont chouettes. Et je me dis toujours depuis longtemps, si un jour j'ai plus de taf, c'est que probablement on a réussi à lancer suffisamment d'acteurs qui sont devenus viables et qui sont trouvés leur place sur le marché.
Et tu as peut-être un enjeu aussi sur l'acquisition. Tu vois aussi, tu disais, c'est de plus en plus difficile sur Instagram, mais j'imagine, tu vois, surtout sur la partie payante aussi, où bah, là, on peut pas le nier. Enfin, moi, je le vis aussi sur Google Ads. Les coûts d'acquisition ont augmenté. Il y a beaucoup plus de concurrence, donc c'est de plus en plus difficile de sortir du lot. Et de toute façon, ça coûte plus cher qu'il y a 4-5 ans en arrière, quoi.
C'est exactement ça. Juste pour rappeler, il y a 3 ans, 4 ans, si on payait plus de 35 centimes à l'email, je pétais un câble. C'est-à-dire qu'on se disait, on a raté un virage, c'est soit la landing page, soit les messages, il y a quelque chose qui ne va pas. Post-Covid, bah, tout s'est accéléré. Les coûts d'acquisition, rien que sur Meta, ont été progressivement multipliés par 2, par 3. Aujourd'hui, on est déjà très content si on fait un coût d'acquisition d'un mail sur Meta à moins de 50 centimes. On arrive, mais il faut un travail qui est colossal. Nous, de toute manière, on a des clients de toute taille. On va y venir après, peut-être, mais on a des clients qui disent on a un budget prévisionnel publicitaire et qui fait le job. On a d'autres qui disent on a 3 000, 4 000, 5 000 euros, pas plus. Et donc, historiquement, chez Claudiebox, il a fallu qu'on soit très smart, le système D devient presque système A, parce qu'il faut toujours trouver des moyens pour faire pas que la publicité. La publicité, c'est très utile, en tout cas, comme nous, on l'appréhende, pour faire des tests rapides, notamment au début. C'est-à-dire, c'est très chouette, et je pense que tu connais l'exercice, Léa. On lance une landing page, on a hâte de savoir 4 jours plus tard si cette landing page fait le job ou pas. Et donc, c'est chouette, notamment quand on a des comptes Instagram avec une cinquantaine de followers, de dire si on essaye d'avoir des stats fiables que par l'organique, ça prend des semaines. Si on met un petit budget publicitaire, parfois très faible, hein, 30, 40 euros par jour, au bout d'une semaine, on s'est dit, bon, il n'y a pas le feu, la landing page a l'air de fonctionner, et on va itérer. Ou à l'inverse, on s'est dit, bon, on s'arrête, on est vraiment à côté de la plaque, il y a un truc qui ne va pas. Et après, l'escalabilité de la pub, ça va dépendre des clients. Mais nous, en fait, on a l'habitude d'avoir autant des clients qui disent on peut vraiment fuser un pub ou d'autres qui disent on va chercher de l'argent, c'est justement parce qu'on n'a pas.
Et toi, German, ça fait maintenant 10 ans que tu es dans le milieu du crowdfunding, tu as beaucoup d'expérience là-dedans, tu as accompagné de super boîtes, enfin en tout cas, tu as aidé de super boîtes à se lancer et maintenant à être aujourd'hui très connu, tu as vraiment de belles réussites. Après toutes ces années d'expérience, est-ce que tu aurais des choses à nous partager, une méthode, des conseils sur finalement comment se lancer pour réussir sa campagne de crowdfunding?
On a eu la chance d'accompagner des boîtes qui ont devenu un peu des références dans leur secteur. On peut parler des Nevsanker, d'Inga, on peut parler des puissantes dans la sextech, des belles boîtes qui ont été après invitées à plusieurs podcasts, etc. C'est drôle parce que derrière ces belles histoires, on a eu des galères pas possibles, c'est-à-dire des moments difficiles où on se disait à la fin, waouh, comment on va faire? Donc oui, j'ai beaucoup de choses à te partager. Des recettes magiques applicables passe-partout, il n'y en a pas.
Mais par contre,
on a sans surprise. Par contre, on a une méthode, un petit nom en interne, on l'appelle le POC Flow, c'est un peu un workflow. Pour aller chercher le POC, c'est un nom très familier, mais qu'on utilise en interne dans l'équipe. Et c'est pas la physique quantique, c'est vraiment une méthode en 5 étapes. On s'efforce à les respecter, à pas prendre des raccourcis parce qu'on dit ouais, ces projets vont cartonner, donc on va comme des abrutis. Non, à l'inverse, on s'est dit, on passe par des étapes. On a des KPI où tous les projets y passent. Et donc, d'une manière très scolaire, on essaie d'être très froid dans la perception de est-ce que la préparation de la campagne, ça se passe bien ou pas. Ça nous permet, surtout, c'est moi qui porte la casquette Strat où on fait du crowdfunding, et ça me permet d'accompagner des projets sur lesquels je n'ai pas d'avis à donner, je suis pas du tout le persona. C'est-à-dire, c'est très à la fois compliqué et glissant qu'on est ou pas le persona. Je m'explique, quand on est trop le persona, on peut se dire ça va cartonner, c'est tellement évident que ça vaut ça et que ça répond à un besoin. Peut-être qu'on perd le nord, que c'est niche, et qu'on est parmi une poignée de fous qui disent c'est génial ces trucs. À l'inverse, quand on n'a pas d'avis à donner, quand on accompagne des projets par exemple dans la femtech, la sextech, je n'ai pas d'avis et ça me va très bien. Et cette méthode, ça nous oblige à dire, OK, on fait une landing page, le client porte une vision, on la déploie. Et de toute manière, en fait, de manière un peu neutre, on essaie de voir si cette première version de landing page est bien ou pas. Donc, certes, il n'y a pas de recette, mais il y a cette méthode que elle est appréciée par nos clients parce que nos clients, c'est que des projets à nature entrepreneuriale. Et je pense qu'aujourd'hui, le gars qui ignore à quel point le tracking, l'A/B testing, tous ces genres de métriques sont importants, et ben en fait, tout simplement, je pense qu'il n'y aura pas signé chez nous. Parce que nous, on est clair depuis le départ que ça va être studio, qu'on n'a pas des sauces magiques, qu'il va falloir bosser comme des malades. Donc, la personne qui a peur de ça directement, bah, il ne répond pas à nos propositions commerciales. À l'inverse, si la personne est bien sensible à ça, c'est vraiment d'une fluidité qui arrange tout le monde.
Déjà là, c'est chouette parce qu'en creusant, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué et qu'il y a beaucoup plus de tâches derrière une campagne de crowdfunding que ce qu'on peut croire. C'est pas uniquement la jolie vidéo et la campagne de com qui est lancée. Et justement, est-ce que tu pourrais nous détailler un petit peu les différentes étapes et savoir par quoi tu commences?
Avec plaisir. Comme je disais, workflow, c'est un peu longué s'il faut la décrire en détail, mais si je résume, il y a la phase où on prépare les supports des coms. On fait bien évidemment un kick-off, on met toutes les hypothèses marché sur la table, le persona, la vision qui porte l'entrepreneur. Et même déjà sur ça, on est très vigilant de ne pas dénaturaliser le projet. C'est-à-dire que si le client il nous délègue un peu trop, ce qui peut arriver, parce que le client, il peut chercher vraiment une agence 360, etc. Moi, je suis toujours attentif que son prisme ne sera pas le mien et que même si c'est l'énième boîte que je lance dans tel ou tel secteur, ça sera peut-être différent comme ADN. C'est un truc très viscéral de ce qu'il porte. Donc, quand on dit qu'on prend note de comment lui voit le projet, c'est qu'on essaie de respecter jusqu'au bout les supports des coms. J'entends les posts organiques, publicité, landing page, mailing, d'avoir ses premières visions. D'une, parce que si je suis pas d'accord, ça se trouve sa version est 1000 fois plus efficace que ce que j'avais en tête. Ou à l'inverse, si, imaginons qu'on s'est dit, waouh, ouais, ça sent quand même pas bon, cette personne doit faire le deuil de quelque chose qui a dans sa tête mouliné pendant des années et qui c'est parfait et qui tout va marcher si c'est comme ça. Et donc, on a aujourd'hui la chance de pouvoir aller plus vite à tester que de se mettre d'accord sur une table. Donc, on fait très peu comment dire, de forcing pour dire ben non, 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 on va corriger ça. On va être plutôt vigilant d'aller au plus vite à cette première version des landing pages. Donc, par rapport à ces phases, il y a le kick-off, la mise à plat des idées, hypothèses, persona, la plateforme des marques. Étape numéro 2, on prépare tous ces éléments de com, notamment un travail qui est énorme autour de la première version des landing pages. Nous, c'est un exercice qu'on adore. On fait plus de 200 par an, donc on commence à avoir des petits dadas sur ça.
Vous avez l'habitude.
On a un peu l'habitude, mais je vais te raconter une anecdote pourquoi les habitudes parfois ils sont pas bonnes juste après. Et donc cette première version des landing pages, c'est le moment qu'on attend avec impatience parce que c'est celui qui nous dit au bout d'une semaine, ah c'est génial, ça marche tout seul, ou mince, pourquoi ça marche pas? Quand je dis que ça marche ou ça marche pas, c'est les indicateurs que je pense que ça fait plaisir et sont utiles de les partager. Nous, les landing pages, quand ils sont en dessous de 15%, on s'est dit, bon, c'est laborieux. Imagine à quel point ça va être c'est laborieux dans la collecte d'emails. Nous, landing page, il sert qu'à ça, à collecter ses premières contacts, qu'après, en fait, on essaie de charmer via du nurturing. Et donc, si on s'est dit, si c'est laborieux juste pour collecter un email, imagine à quel point ça va être casse-gueule s'il faut l'encaisser. Et donc, personnellement, je suis plutôt rassuré qu'on est sur des taux de captation, de rétention d'emails au-delà des 20, 25, 30%. Donc, la question vraiment qui nous tarde, c'est bon, est-ce que cette première landing page est vraiment loin de ces 20%. Dans ces cas-là, en fait, il y a urgence de travailler, d'observer le tracking et de l'optimiser. Et si la première version des landing pages, déjà dans une performance au-delà des 25-30%, s'est dit, bon, il y a d'autres chantiers où il va falloir qu'on passe quand même l'effort des ressources, et que cette landing page, bien évidemment, on va la travailler, mais il n'y a pas le feu. C'est un peu l'image. Et donc ça, c'est la première partie, c'est-à-dire la première phase qui est vraiment de tout préparer. On lance un organique, on lance un paid avec ce que je viens d'évoquer, parfois juste des mini-tests vraiment publicitaires avec quelques dizaines d'euros par jour. Et si on voit que c'est vraiment cata en ITER, si on voit que c'est même vraiment, vraiment catastrophique, ça nous permet d'être légitime à remettre en question les points évoqués, le persona, les hypothèses, etc. Et là, il n'y a pas une question d'ego, c'est factuel. J'avoue que ça facilite énormément.
C'est la donnée qui parle.
Voilà, c'est pas l'ego qui s'invite et qui dit « Ah, j'avais raison ». C'est pas ça. Si on se dit « Bah, testons tout, on s'en fout qui a raison, qui a tort, mais il faut qu'on aille vite ». Et donc, cette méthode, après, nous permet donc de collecter des emails, mais un email peut être très quali ou juste une émotion qui a été très éphémère de « Ton truc m'intéresse ». Et donc, les étapes qui suivent, c'est de comment on échange, que ce soit via des échanges sur les réseaux sociaux, parce que la personne s'est inscrite, suit le compte Instagram, etc. Les échanges mailing, on va faire des questionnaires, on va poser énormément de questions, mais on va surtout observer comment cette personne se comporte après ces coups de cœur de « Ah, c'est génial ce que tu fais ». Parce que en général, on les fait quand même attendre pas mal de temps. Entre le moment qu'on collecte ses premiers emails et le lancement d'une campagne crowdfunding, il peut se passer quelques mois. Donc déjà là, on met à l'épreuve notre capacité à garder cette personne un peu le lead au chaud et même voir s'il y a des commentaires, s'il n'y a pas des réactions, si à chaque fois qu'on envoie des emails un peu « Waouh, regardez, c'est la nouvelle collection, on a enfin, que sais-je, on a déterminé les couleurs de la collection ». Si la personne ne clique pas, bon, ça commence à se sentir un peu mal que cette personne ne s'intéresse pas à ces stats-là et qu'après il va acheter. Donc c'est des indicateurs chiffrés ou subjectifs, mais c'est les seules choses qu'on a pour dire ok, on peut fixer la date parce que on sent qu'on sait faire, on sent qu'on a une petite communauté qui nous suit. Et certains de campagnes qu'on a accompagnées ils ont un peu négligé ça parce que c'était des volumes, on a collecté 70 000 emails, donc c'est génial, même si on a des casses, on va s'y trouver. Et ben non, pas du tout en fait. C'est là où c'est un peu glissant, c'est que des emails aujourd'hui on peut les collecter d'une manière plus ou moins facile. Mais de là, c'est dire que c'est un email activable et qu'un jour deviendra client, ben, je pense que tu le connais aussi bien que moi, c'est toute une autre affaire. Et la petite anecdote, parce qu'il n'y a pas que des choses qui sont fluides une fois qu'on a l'expérience, c'est qu'on a tendance à dire, tiens, si ça marchait sur un tel, là, on est sur un cas à copier-coller, donc on va essayer de répéter ses succès sur une autre société à côté. Et la boîte que j'ai en tête, c'est puissante. Avec Marie et Enguerrand, on s'adore, l'histoire finit bien, c'est une boîte qui aujourd'hui fuse, ils sont 12 salariés de chiffre d'affaires qui part à un autre financement. Donc c'est vraiment la belle histoire, quoi. Mais il y a eu un moment où on s'est fessé des visios et plus personne ne s'est parlé tellement c'était de qu'est-ce qu'on fait. Et tout simplement, c'était ces problèmes-là de répéter ce qui nous a bien réussi sur d'autres. Puissante, c'était quelques mois après Nessonker. Neuf son cœur qu'on avait cartonné, on avait fait des batches de tests à plus de 40 landing pages. On avait trois produits, donc il fallait vraiment, vraiment tester dans tous les sens, monoproduit, trois produits, lequel en premier, etc. Et donc, on avait gagné cette confiance en disant, cette méthode est géniale, les landing pages, on sait faire. On a répété ça sur Puissante, le sextoy de Marie Enguerrand. Et on s'est aperçu que c'était une cata. On avait 8% des conversions et on était à 10 versions différentes. Il y en avait max 10% des conversions. Donc et là, on était en mode paumé. Et c'est là où je reviens sur un point, c'est qu'une landing page, par définition, on fait des petits paragraphes, des titres accrocheurs. On sait très bien que la personne va la lire en diagonale et que si on la garde plus d'une minute, c'est déjà jackpot. Et ben pas toujours en fait. Puissante, il y avait un décalage énorme entre ce que Marie réussissait à faire sur l'engagement de son compte Instagram. Dès que Marie postait son Instagram, il y avait une déferlante de vraiment des commentaires, c'était génial, et, ta prise de parole nous fait du bien, etc. Et la landing page à côté qui avait une galère, on galérait énormément pour la faire décoller. Et on a compris que, en fait, cette landing page devait être prise de la même manière que la prise de parole sur Instagram, avec un manifeste. Avec des phrases construites de pourquoi en fait cette vision vraiment de la sexualité, de la masturbation n'était pas vraiment à prendre à la légère avec des phrases courtes un peu catchy. Et donc cet contre-exemple de landing page, si on prend un peu les best practices de landing page, on s'est aperçu que cette landing page, que j'avoue je l'avais postée en mode ça soit étonnant que ce truc fonctionne, et boum, est passé à plus de 30% des conversions. Et là, une fois qu'on comprend les motivations des personnes qui ont participé après à cette campagne, on s'est dit c'est une évidence, cette personne qui a participé à la campagne puissante, bien évidemment, qui avait déjà croisé vraiment des publicités, des posts où acheter un sextoy. Mais là, l'histoire était tellement différente. C'est plus le prisme vraiment du bien-être, vraiment de la sexualité telle que Marie racontait sur les réseaux sociaux qui plaisait, qui faisait la différence. Donc, ces jours-là et cette expérience vraiment de cette campagne puissante, je la prends tellement comme exemple que je dis à mes clients, si les indicateurs, ils sont pas bons, il vaut mieux décaler parce que cette histoire termine super bien et aujourd'hui c'est une boîte qui me fait énormément plaisir de la voir comment tout leur réussit. Mais qu'est-ce qu'on est passé à ça de se dire bah si on lance un crowdfunding dans ce contexte-là, ça sera un ratage et aujourd'hui on se dirait bon bah puissante, c'était une mauvaise idée.
Ouais, c'est là où tu te rends compte que cette phase finalement d'exploration marché aussi et d'AB testing en fait est super importante et qu'il faut pas du tout la négliger parce que derrière ça va avoir forcément un impact sur le volume et la qualité des leads que tu récoltes derrière et forcément le nurturing sera beaucoup plus difficile après. Donc du coup cette phase 2 en fait est ultra importante et même j'ai envie de dire décisive parce que c'est ce qui va faire l'attraction ou non du coup par la suite.
Tout à fait. Moi, je dis souvent que la partie la plus intéressante, ou en tout cas plus bénéfique, de faire une campagne de type crowdfunding, mais c'est valable pour n'importe quel lancement hein, d'une société, hein, je pense que c'est à cette période-là. On a la chance qu'on est attendu nulle part. On a la chance qu'on peut tester des versions de copywriting différentes et que personne ne serait vraiment étonné. Donc, cette période-là, si on a envie d'aller vite, je pense qu'on potentiellement, on passe à côté de ce qui est de plus enrichissant d'une campagne. C'est pas le taux horaire qui est vraiment comment dire bénéfique à la fin. Si on se rend compte le temps qu'on passe derrière une campagne et l'argent qu'on collecte, ben en fait, on est clairement sous-payé. Mais c'est pas du tout ça. C'est vraiment comment ta boîte peut décoller ou pas en fonction de ses apprentissages. Moi, j'y crois à ça. Je suis vraiment persuadé que cette phase-là, quand nos clients nous disent, je pense que, ouais, on a envie d'aller vite, on a 2 mois, je préfère leur dire, on sait faire vite, mais peut-être qu'on aura le sentiment un peu amer d'avoir raté des choses, des insights vraiment faibles et hyper enrichissants qui vont faire la diff entre ta boîte et celle de la concurrence.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'allais justement y venir sur la durée justement de préparation. Ça casse un peu le mythe, mais je trouve ça très cool de, tu vois, cette image un peu extérieure qu'on peut avoir. En gros, j'ai une idée de produit, je me lance d'un coup, je fais ma vidéo, je communique, je fais une petite landing page et boum, j'envoie et en 3 semaines, c'est réglé. La réalité, c'est que c'est pas du tout ça. Et donc, c'est super intéressant de se rendre compte des dessous et de tout ce qui se cache comme travail derrière avec une phase du coup de préparation qui peut prendre beaucoup de temps. Et du coup, je serais super intéressée de toi avoir un peu, j'imagine que ça dépend des projets, mais ta durée idéale de préparation pour lancer son produit, quoi.
Ça n'a jamais été facile. C'est-à-dire qu'au début de crowdfunding, pour faire un peu l'histoire, j'étais là, on avait ces côtés fascinants de Kickstarter où on avait le sentiment, d'une manière très bien orchestrée, les Américains, il faut quand même leur reconnaître cette partie-là.
C'est clair.
La personne fait c'est presque semblant qu'il était dans son garage en train d'être filmé par son meilleur pote et après on apprend que cette personne avait dépensé plus de 692 000 dollars juste en acquisition de sa campagne qui a cartonné, qui a fait 13 millions, mais c'était pas le sujet des bons ou un mauvais investissement, c'est que l'image véhiculée était vraiment du gars bricoleux qui dit bah j'ai rêvé ça dimanche et lundi je me suis lancé.
Ouais.
Et c'est cette partie-là qui a été très compliqué parce que les acteurs de crowdfunding, notamment les plateformes, ils devaient quelque part jouer un peu le jeu des données en vie. Donc, ce côté un peu mystique, presque magique d'un crowdfunding, il fallait l'alimenter. Mais à ses débuts, a été un peu too much et qui a fait que les gens, ils voulaient se lancer juste avec un torchon disant, bon, OK, vu le nombre des milliers de personnes qui vont passer sur ma page sur la plateforme, ça va se faire tout seul. Et ça, c'est un mythe. Ça n'a jamais existé. On n'a jamais eu du trafic naturel. La personne qui s'est dit un lundi matin, tiens, je vais faire le tour des Kickstarter, aller voir ce qu'il y a à baquer. Certes, il y a eu une mode autour des projets tech sur Kickstarter notamment, des drones et tout ça. Mais pour la grande majorité des projets que on a accompagnés, en fait, les plateformes, ils ont été obligés de dire, bon, on s'est calme, ne venez pas juste avec une page. Et les plateformes, ils font un super taf sur ça, disant, mollo, c'est génial, mais il faut que tout le monde y travaille un peu. Donc ça nous a aidés parce que les gens, ils ont commencé à comprendre dans les années 2015, 16, qu'il fallait s'y préparer. Et les entrepreneurs, ils ont été quand même assez joueurs parce que je pense qu'ils avaient toujours une prise de parole très, ouais, c'est génial, on l'a compris très vite. Et donc, dans la prise de parole un peu mainstream, ils étaient quand même un peu sur cette autoroute du succès. Mais dans des milieux plus confidentiels, des incubateurs, etc., je pense qu'ils étaient assez sincères en disant, ouais, non, c'est galère, je te conseille plutôt de te faire accompagner ou travaille ça, ça et ça. Et donc, nous, on a été dans ces bouches-oreilles, on a été pris par cette aspiration de presque de réalisme en disant, bah, ok, ça a l'air cool, mais il faut quand même compter 3 mois de campagne avant de se lancer, des pré-campagnes, pardon.
Et tu vois, je rebondis sur un élément intéressant que tu disais, ça m'intéresse qu'on creuse, que finalement, on n'est pas forcément obligé de lancer son projet de crowdfunding sur une plateforme type Ulule, KissKissBankBank, ça peut être aussi sur son site internet. Comment est-ce que tu peux faire le choix entre les deux? Dans ma tête, crowdfunding égale plateforme, mais en fait, je me dis que j'ai de plus en plus en tête de boîtes qui se lancent avec de la précommande directement sur leur site internet. Et finalement, en fait, le concept est le même, c'est juste que le support n'est pas pareil. Donc, du coup, avoir un petit peu ton retour d'expérience là-dessus.
Aujourd'hui, si on a, par exemple, un projet d'impact, de toute manière, on accompagne que des boîtes d'impact. Si son produit, ou en tout cas l'offre commerciale qui sera proposée sur son lancement, un panier moyen qui est autour de 30, 40, 60 euros, ça a l'intérêt de le faire sur une plateforme de crowdfunding, puisque cette fameuse newsletter, par exemple, va amener un public qui est pile dans le mille de ce qu'on a l'habitude de voir. Et donc, ça va être génial de voir un mercredi chez Ulule ou un jeudi chez KissKiss, des ventes, c'est faire tout seul. Donc ça c'est une super idée de garder encore le crowdfunding pour ce type de projet. Après, si imaginons qu'on porte une marque de prêt-à-porter made in France, une super veste, ben en fait ton produit coûte plus de 200 euros, risque d'être un peu déceptif de faire un crowdfunding puisque cette newsletter n'est pas habituée à ce genre d'achat, c'est-à-dire que potentiellement, c'est une question des probas, hein, c'est que potentiellement la personne qui est prête à mettre autant d'argent sur un produit comme celui-là fait que ben le passage à newsletter, en fait, il est plus nuancé, plus faible en conversion. Et dans ces cas-là, en fait, tu auras tout perdu puisque tu n'auras pas maîtrisé vraiment le positionnement haut de gamme de ton produit. Et en même temps, en fait, encaisser très peu des contributeurs en passage à newsletter. Donc là, en fait, c'est à ces niveaux-là que l'arbitrage s'est fait. Disons, OK, ton persona marketing, il ressemble à quoi? Et si ton panier moyen, il est déjà un peu fort par rapport à des valeurs moyennes sur les plateformes, ouais, je dirais que la bonne décision est plutôt de faire ça sur son site e-commerce. Aujourd'hui, on a la chance qu'il y a des acteurs qui font ça depuis quelques années. Hein. On peut évoquer les Safal et compagnie qui font que la précommande n'est plus un ovni. C'est plus vraiment une méthode, comme une dynamique des ventes qu'il faut vraiment expliquer et que c'est un cours bizarre. Je pense qu'aujourd'hui, je dis pas que tout le monde la connaît, la maîtrise, mais ça choque beaucoup moins qu'il y a 5 ans.
Ouais, les gens sont de plus en plus habitués.
Exact.
Et est-ce que tu aurais un peu des erreurs ou les grosses boulettes à pas faire à nous partager, qui sont un peu les classiques, j'ai envie de dire, que tu vois avec tes clients quand tu lances une campagne de crowdfunding?
Ouais, il y en a quelques-unes. Peut-être que celle qui aide pas l'entrepreneur de croire que parce que la personne nous dit c'est trop cool, Léa, tu te lances quand? Cette personne va vraiment acheter le jour que tu te lances. C'est-à-dire que notamment quand on a un projet d'impact, c'est doublement plus casse-gueule. C'est que cette personne, je pense pas qu'elle exagère dans ses propos, mais il trouve que ton projet est génial, que ton impact il est méga utile, etc. Mais après, il y a un arbitrage à la fin du mois de qu'est-ce que là où je mets mon argent. Et donc, c'est pas parce que quelqu'un vous dit c'est génial et qu'on a des likes que cette personne est prête à sortir sa carte bleue. Il y a quelques années, on disait le consommateur, ça allait être vraiment la norme. Non, encore aujourd'hui, ouais, c'est moi, ça me fascine de faire un peu la part des choses entre ce qui est dit et fait. Mais on les fait tous à plus ou moins à un niveau différent, mais je pense qu'on a toujours envie de faire tout propre, tout bien, et après un arbitrage à la fin du mois qui est pas évident. Donc ça, c'est vraiment le client qui nous dit non, tu te rends pas compte, German, mais là, tu sais, le nombre de personnes qui me disent on t'attend, t'attend, il faut y aller. Je dis mais non, de l'autre côté, je vois que le landing page, les stats, ils sont pas bonnes et que je sais que cette personne-là, je la connais pas, mais qu'il y a des fortes chances que le jour que tu te lances, ils te disent ouais, c'est la fin du mois, c'est compliqué, mais j'attends ma paye. Donc ça, c'est vraiment les indicateurs un peu égométriques, des likes, etc. Moi, je suis très méfiant. Moi, même j'ai tendance à pas du tout observer ces genres de métriques.
J'allais dire, j'ai un exemple très concret en tête là-dessus. J'avais enregistré un épisode avec Ludovic Pandaris de Tizu qui m'avait dit ça. Et je trouve que c'est un exemple qui illustre parfaitement ce que tu dis, qu'il avait eu une vraie première traction sur sa partie B2C au démarrage. Et en fait, il s'est rendu compte que dans le temps, ça tenait pas forcément. Et que du coup, justement, les gens étaient en mode des meubles upcyclés, c'est trop cool.
Ouais.
Mais la réalité, c'est qu'ils n'étaient pas prêts à payer ce prix-là et que tu renouvelles pas tes meubles toutes les semaines. Donc lui, derrière, en termes de modèle économique, c'était compliqué et c'est ce qu'il a fait et c'est ce qu'il nous raconte dans l'épisode qu'il a switché vers le B2B. Et je trouve que voilà, pour donner un exemple à nos auditeurs, je trouve que c'est intéressant et je pense que c'est un piège dans lequel on tombe tous et puis en fait, dans lequel on est tous tentés parce que bah
On a envie d'y
franchement,
croire.
on nous
On a envie d'y
conforte
croire.
voilà que notre idée est
Bien sûr.
excellente et que nos produits vont révolutionner le marché. Donc allons-y quoi.
Ludovic, je le connais bien, on a lancé Tissu en crowdfunding avec
Ah, mais trop
Crowdibot.
bien, je savais pas. Tu es
Oui.
vraiment partout, German.
Eh oui. On est toujours à l'ombre de ces belles boîtes, et ça me va très bien. Mais tu as raison, en fait, pourquoi je dis que nous, les entrepreneurs, c'est que on a des quotidiens pas évidents, on se pose 10 milliards de questions, des galères industrielles. S'il y a quelqu'un qui passe, il nous dit c'est génial, tellement on a envie de garder, c'est juste cet échange à la fin de la journée. Au point que ça nous met dans une posture pas très, comment dire, objective de ce qui va se passer. Donc mon job, il y a certains clients qui nous disent mais attends, je comprends pas, tu y crois ou pas dans le projet? Je dis si, j'y crois, mais ce qui est dit et fait, c'est je le constate depuis très longtemps. Donc et ça, c'est vraiment le côté glissant, vraiment de juste se dire qu'on y est ou pas bon en fonction de ce qui est dit. Le point aussi qui est un peu, si un peu casse-gueule, cette image un peu magique du crowdfunding induit à vraiment à cette erreur assez classique de dire bon, là il y a un timing qui est pas bon pour des contraintes financières ou industrielles, et il faut y aller, on verra sur la route. C'est-à-dire on a 40 jours de campagne, on aura bien le temps de pivoter et d'ajuster ce qui est un peu mal exécuté. La réalité, c'est que non, c'est pas ça. Une campagne qui démarre mal, une campagne qui démarre un peu doucement, installe le doute. L'effet mouton, ça peut aller dans le sens qui nous
Ouais.
arrange ou à l'inverse. C'est-à-dire qu'on dit, waouh, c'est génial ces trucs-là, c'est bizarre si personne n'y va, personne participe, c'est que j'ai pas compris dans le détail, mais il doit y avoir un loup. Et donc les gens, ils disent, je reviens plus tard, et le plus tard, on les connaît, ils le font pas. Et donc, à l'inverse, la campagne qui démarre d'une manière un peu magique, en 24 heures, on est déjà à 300%. Ça génère l'inverse, c'est-à-dire la personne qui dit, mais attends, j'ai pas tout lu, mais si tout le monde achète, moi j'y vais. Et donc, si je résume, il y en a 4 mois pour faire tout ça, il vaut mieux se laisser les 3 mois des pré-campagnes et de faire une campagne, même flash, des 3 semaines. On a plutôt intérêt à faire ça que de dire, bon, on est quand même un peu à l'arrache, mais on va faire une campagne des 50 jours et ça va nous laisser largement le temps de. Non, le temps, c'est que il faut comprendre que le crowdfunding, en fait, de la manière que les pages des plateformes y sont faites, c'est la preuve sociale est hyper valorisée. Mais par contre, à l'inverse, si la jauge, on revient dans 2 semaines, elle est toujours à 23%, là, c'est mort. En fait, nous, on a jamais accepté d'arriver presque en rattrapage sur une campagne déjà lancée, parce qu'on est conscient, ça serait mensongère de promettre qu'on peut rattraper, en sachant qu'on sait très bien que le taf qui décide ce que ça va être ou pas une bonne campagne est fait avant le lancement.
Et pour clôturer cet épisode, German, est-ce que tu aurais quelques résultats des nombreuses campagnes que tu as lancées à nous partager pour donner un petit peu l'eau à la bouche à nos auditeurs?
J'en ai plusieurs, mais en tête, j'en ai deux qui sont assez différentes. C'est encore plus d'intérêt de dire, tiens, est-ce que tu es vraiment dans le cas A ou le cas B? Le cas A, c'est celui que j'évoquais tout à l'heure, Puissante, la boîte qui s'élance avec très peu de moyens. Des têtes, on avait dépensé 2 600 euros en publicité. On avait réussi à faire des publicités, même si on annonçait un sextoy. Ça, c'est la petite fierté qu'on a
Ah ouais,
réussi à.
parce que c'est vrai qu'en termes de réglementation par les plateformes et tout, tu dois être limité, ouais.
C'était très compliqué, même on a été contacté par des agences disant Chapova, comment vous avez fait? Bah, tout simplement, on a compris que la lecture de nos posts, en fait, on jouait sur l'ambiguïté. Je pense que le bot n'avait pas compris exactement la géométrie de ce qu'il y avait en face, et on avait une landing page écran. Et on a compris que le crawl, en fait, la lecture des bots, des méta, il s'arrêtait à cette première page. Et la vraie page était juste derrière. Et donc, on a réussi quand même à collecter plus de 6 000 emails de cette manière-là.
Trop fort.
Donc, et ça, c'était chouette. Mais la contrainte, c'est qu'on n'avait pas de pub. En fait, on n'avait pas de budget publicitaire. On avait moins de 3 000 euros. Et cette campagne a réussi à aller dans les tops, des top 5 des grosses campagnes type Ulule. Chez Ulule, je crois qu'on est dans le top 5 santé et bien-être. Donc, c'est 230 000 euros, il me semble, dans les eaux. Et aujourd'hui, c'est une boîte qui fait plus d'1 million. Je crois que la deuxième année, c'était déjà 1,5 million de chiffre d'affaires, un autofinancement, parce que déjà les banques, les investisseurs, ce genre de sujet, ils sont toujours un peu frileux. Family office, on ne parle pas. Et donc, ils n'avaient pas trop le choix non plus que de partir vraiment from scratch. Et je pense qu'aujourd'hui, ils sont très fiers d'être vraiment une petite équipe à 12 personnes et une autonomie complètement indépendante. Donc, et ça, c'est vraiment le B2C qu'on peut faire. Sur un crowdfunding un peu ambitieux et bien travaillé. Et à l'opposé, on a une campagne plus récente, Bradley, qui font du pain de mie à base des légumes qui est sur Ulule.
Trop bien.
Une campagne où il y a une stratégie très différente parce que de pain de mie, on ne va pas acheter sur le web. On ne va pas se faire livrer de pain de mie tous les mois, toutes les semaines. Donc il y avait une stratégie de OK, on sort, on montre à tout le monde ce qu'on sait faire et après on deal d'une manière plus fluide et avantageuse avec la GMS. Donc, il y avait déjà un calcul, disons, on fera du B2C, mais d'une manière très éphémère, même uniquement pour ces lancements-là. Et cette campagne qui a été hyper bien déroulée par Vincent et Collins a été hyper, hyper smart. Même d'ailleurs, j'invite à voir comment même la prise de parole de Collins et Vincent s'est faite sur LinkedIn. C'est assez bien exécuté. Avec un partage de tout ce qu'ils font à tout moment, même vous pourrez remonter dans le feed et vous allez voir chaque fois qu'on avait un call. Et en fait, le lendemain, tout était sur son post LinkedIn et d'une transparence admirable. Et ben, en fait, fait qu'aujourd'hui, Bradley est vendu chez Cora, chez Monoprix. Donc, c'est la belle boîte qui, à mon avis, a un futur hyper chouette. Or que la campagne Ulule, je crois qu'il a dépassé les 20, les 30 000 euros. Hein. Donc c'est pas uniquement le montant qu'on collecte derrière qui fait la diff. On n'en parle pas d'Inga, on n'en parle pas d'NF5R. C'est des boîtes qui ont tout cartonné. Inga plus, ils sont le record aujourd'hui dans cette catégorie sur Ulule. Mais c'est pas le seul intérêt à faire du crowdfunding. Mon point, c'est qu'on peut juste faire un POC tellement chouette que même si on est parti pour faire du B2B ou B2B2C, et en fait on s'est dit ok, mais en fait on en discute.
C'est une très belle manière de clôturer cet épisode, que ça nous montre tous ces exemples-là, que t'as pas de recette magique, que c'est vraiment applicable en fonction des types de boîtes et tes objectifs aussi. Et Bradley est vraiment du coup un super exemple parce que pour la petite anecdote, je l'ai vu passer. J'ai bien suivi
Super.
Vincent sur LinkedIn et je me suis dit. Waouh, du coup, faire une campagne de crowdfunding pour du pain de mie, vous avez beau avoir les plus belles valeurs et le meilleur produit, c'est un sacré challenge, donc c'est super intéressant de découvrir les coulisses.
Ah, ça fait plaisir.
Eh bien, écoute, German, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. C'était vraiment un grand plaisir de te recevoir à mon micro. Cet épisode touche bientôt à sa fin, mais avant ça, je vous propose de faire un petit récap des 4 phases pour réussir votre campagne de crowdfunding. Phase numéro 1, définir votre plateforme de marque et votre première landing page pour pouvoir rapidement arriver à la phase 2, qui va être la phase la plus importante et celle qui va être décisive dans la réussite de votre campagne. C'est la phase d'exploration du marché avec des landing pages en A/B test et du nurturing par email. Et enfin, pour les 2 dernières phases qui sont celles dont vous avez plus l'habitude d'entendre parler, c'est la phase 3 avec une communication hyper transparente avec votre communauté et les premiers leads que vous avez générés autour du projet pour valider votre traction et maintenir l'engagement. Et enfin, la dernière phase, c'est la page de précommande avec une communication quotidienne pendant les 30 ou 40 jours de campagne. Et avant de se quitter, est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce que nos auditeurs peuvent te retrouver ou te contacter s'ils ont des questions à te poser ou s'ils ont envie de se faire accompagner pour lancer leur prochain produit?
Le plus simple, c'est LinkedIn. On n'est pas hyper actif sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, on a commencé à le faire depuis très peu. Mais LinkedIn, on commence à partager beaucoup de choses. Depuis 8 ans, on s'est dit qu'on n'a pas vraiment de quoi vraiment servir à une communauté sur les réseaux sociaux, donc on n'a jamais communiqué. Et là, en fait, on a décidé d'ouvrir toutes nos études des marchés, toutes les choses qu'on fait en interne depuis longtemps. On s'est dit, finalement, ça va être plus utile de les partager que de les garder. Donc, je suis beaucoup plus présent qu'avant sur LinkedIn et sinon sur cloudybox.com ou backline.co. Il y a toujours un formulaire.
Trop cool. Eh bien, écoute, merci beaucoup, German, et je
merci
te dis à
toi,
très
Léa.
Vite. Ciao,
à
ciao.
Très vite. Salut.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Partagez-le à un marketeur ou à un fondateur à qui ça pourrait être utile. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast pour convaincre de nouveaux invités de nous partager les coulisses de leur stratégie marketing. Et pour aller plus loin, téléchargez la bibliothèque de ressources co-construite avec mes invités pour développer votre croissance. Rendez-vous sur l'effetmarketing.fr dans l'onglet ressources ou tout simplement dans la description de l'épisode. Merci pour votre soutien et je vous dis à très vite. Ciao, ciao !